Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs des Bulles dans le Bocal. Nous sommes aujourd'hui à Auch, dans le Gers, invités par la Libre Pensée du Gers, et nous sommes réunis pour assister à la conférence de M. Salamero Joachim. Le sujet de cette conférence est le rôle et responsabilité de l'Église catholique pour l'avènement du franquisme. Mais avant de vous faire écouter l'émission que nous avons enregistrée, nous avons avec mon ami Bernard quelques questions à poser à M. Salamero. La première question qui est évidente, c'est qui êtes-vous ?
Je suis un citoyen français, grâce au droit du sol, parce que quand je suis né à Bordeaux, la même année que la Deuxième République espagnole a été proclamée, il y a donc 85 ans, en 1931, mon père était déjà exilé en France. Militant ouvrier anarcho-syndicaliste, membre de la CNT, très jeune, sous la dictature de Primo de Rivera en Espagne, entre 1923 et 1930, pour ses activités syndicalistes, politiques, il a été obligé de s'exiler en France, où il a connu une dame, bien entendu, c'est pour ça que je suis né, parce qu'ils se sont connus, mais qui était, elle aussi, fille de paysans espagnols, qui tous les ans traversaient les Pyrénées par le Haut-Aragon où ils habitaient. Comme il disait à l'époque, il venait travailler en France depuis l'époque, la saison des cerises jusqu'aux vendanges. Elle a aussi, elle, bénéficié du droit du sol à l'époque, parce que ma fille d'Espagnol était quand même née à Pau. Donc voilà pourquoi je suis un enfant qui s'appelle en espagnol, enfin j'étais un enfant qui s'appelait Joaquín Salamero, maintenant en français on dit Joaquín Salamero, voilà. J'ai été ensuite élevé dans le quartier qu'on appelait à Bordeaux la Petite Espagne, connu déjà par de premières immigrations économiques au début de la première partie du XXe siècle, et surtout à partir de 1939 par l'afflux de la population espagnole de différentes régions qui fuyait le franquisme. Mon père a été un militant antifranquiste pendant 2 ou 3 ans avant qu'il décède, mais je me souviens quand même qu'enfant, dans la petite échoppe que nous habitions dans un quartier donc espagnol de Bordeaux, j'ai vu passer sur le sol de la maison, dans des couvertures, de nombreux amis, de nombreux camarades exilés d'Espagne qui cherchaient un passage avant de partir les uns dans les maquis quand ils ont pu, les autres pour travailler dans les camps de travail, dans les camps de travail aussi des réfugiés espagnols notamment, après l'avènement de l'occupation en France. Par la suite, j'ai toujours vécu dans les milieux espagnols, même quand je suis devenu très jeune, avec mon métier d'ajusteur mécanicien et même de chaudronnier sur fer. Je suis devenu un militant syndicaliste, un ouvrier militant syndicaliste. J'ai milité d'abord à la CGT, puis ensuite à la CGTFO, pour des raisons que je pourrais parler longuement, mais ce n'est pas le débat et la discussion de ce soir. Et j'ai été adhérent à la Libre Pensée. Ma première carte à la Libre Pensée, à la Fédération nationale de la Libre Pensée, c'est 1953. Donc c'est vrai que ça me rajeunit de parler de ces choses-là. Je vous remercie d'ailleurs de m'accueillir, de faire cette interview. J'ai toujours été mêlé, plus ou moins, suivant les périodes, à l'activité de la Libre Pensée, bien sûr, mais aussi à l'activité des groupes politiques et syndicaux exilés en France. D'abord à Bordeaux, bien sûr, et puis plus tard avec ceux de Toulouse, de Paris, de Béziers, etc. J'ai bien connu José Payrats, auteur d'une monumentale histoire de la CNT espagnole pendant la Révolution. J'ai connu des militants de toutes les tendances, surtout aussi dans le mouvement ouvrier français, dans la CGT CAFO, parce qu'un certain nombre d'entre eux se sont intégrés dans le mouvement ouvrier français, surtout quand ils ont compris que, hélas, malgré l'apport qu'ils avaient apporté à la résistance française dans beaucoup de maquis, et notamment dans la poche du Médoc en Gironde avec le bataillon Libertad et le bataillon des camarades basques, ils ont contribué à libérer la poche de Royan, etc. Ils pensaient que, après la chute du fascisme en Italie et en Allemagne, on allait les aider à reconquérir une Espagne républicaine, ce qui n'a pas été le cas. Alors quand ils ont compris ça, beaucoup, beaucoup, à Bordeaux, à Toulouse, à Béziers, à Paris, dans d'autres villes, à De Casseville, où j'ai été visiter quelques-uns pour la Libre Pensée il y a 3 ou 4 ans, se sont intégrés dans le mouvement français. Je peux raconter une anecdote sur le, je racontais tout à l'heure à quelques amis, à Bordeaux, sur le cours, un grand cours dans le centre de Bordeaux, mais qui traverse tout ce que nous appelions la petite Espagne. Il y avait le cours, il y a toujours le cours Victor Hugo, mais tous les dimanches matins, les camelots s'installaient. Mais s'installaient aussi tous les dimanches matins, à une quinzaine de mètres les uns des autres, les militants espagnols en exil qui vendaient, ça c'est après la guerre, hein, qui diffusaient la presse de leur organisation. C'est-à-dire que j'ai vu les vendeurs à la criée, bien sûr, de FNT, Solidaridad Obrera, La Bataille, du PUM, Mundo Obrero, du Parti Communiste, El Socialista, du Parti Socialiste, et je dois oublier, parce que j'ai oublié le titre, le journal de camarades basques, en exil. C'était impressionnant et très instructif comme prétexte pour connaître un peu mieux l'histoire de l'Espagne. J'ajoute, et je préfère le dire maintenant, je le dirai, je pense, en conclusion de la conférence tout à l'heure, que s'il est important de se souvenir, c'est l'apport de l'exil espagnol, tant du point de vue littéraire, artistique, culturel, le nombre de journaux et d'éditions, d'éditeurs, d'éditions qu'ils ont publiées pendant 30 ou 40 ans, jusqu'à la disparition du franquisme, qu'ils ont continué même quelques-uns après, avant de pouvoir plus ou moins réintégrer l'Espagne, etc. Le nombre de meetings qu'ils organisaient, le nombre de conférences publiques, de cercles d'études qu'ils ont organisés, que ce soit à Toulouse ou à Bordeaux ou à Marseille, je me répète, etc. Ça a été vraiment un exil, avec en plus les organes de solidarité avec los del interior, comme on disait, ceux qui continuaient la résistance clandestine en Espagne. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je me souviens aussi que ce soit le Secours Populaire Français, le Secours Rouge ou SIA, Solidaridad Internacional Antifascista, le nombre de les représentations théâtrales qui étaient organisées, c'était toujours Los Beneficios para España Oprimida. Il m'est arrivé, un peu plus tard, je suis français, donc je pouvais partir et traverser la frontière en voiture ou en train. J'ai porté des sommes d'argent aux avocats, à quelques avocats, à Madrid, à Barcelone, qui défendaient quand même les camarades espagnols qui étaient poursuivis, handicapés, qui étaient poursuivis, arrêtés, torturés, etc., etc. Et aussi, surtout, pour soutenir leur famille financièrement. Voilà en quelques mots qui je suis. Je suis aussi... 5 minutes encore ?
Oui.
Je suis aussi un responsable syndical, enfin j'étais, quand je suis toujours membre de la commission exécutive de l'Union départementale des retraités forces ouvrières de la Gironde, voilà. Et je suis toujours, je suis ce qu'on appelle le président d'honneur de la Libre Pensée en France, ce qui veut dire que quand on est président d'honneur, c'est quand même on a été président, n'est-ce pas, pendant quelques années. Donc j'ai beaucoup tourné, comme on dit en France, des réunions publiques, des meetings, etc. Les camarades qui sont devant moi, devant ces micros, peuvent pour quelques-uns en témoigner.
Tout à fait.
Et j'ai participé, au nom de la libre pensée, à des réunions de soutien en Espagne, notamment à Madrid, à Barcelone et à Saragosse, au mouvement laïque espagnol qui essaie de se dépatouiller de cette situation parce que la transition démocratique n'a pas rétabli la République et encore moins la laïcité et la séparation des Églises et États, ce qu'avait fait la République de 1931. Donc, responsable syndical, je peux dire, j'ai commencé à militer à la CGT, au syndicat de la météorologie CGT de la région bordelaise, d'où j'ai été exclu, en tout bien tout honneur, pour délit d'opinion, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai essayé d'organiser avec d'autres une tendance d'indépendance au sein de la CGT et j'ai été viré, comme on dit, pour ça. Bien. J'ai donc adhéré à une autre organisation syndicale, l'autre CGT, parce que FO, c'est la CGT Force Ouvrière, où là, j'ai occupé diverses responsabilités, délégué du personnel, secrétaire du syndicat de la météorologie FO en Gironde, membre du bureau départemental de l'Union départementale CGT Force Gironde. J'ai ensuite occupé le poste élu par mes camarades. J'ai démissionné de l'usine où je travaillais parce que je n'étais pas dans le service de ville des Roches d'Assaut à Mérignac. Donc j'étais pris en charge par l'organisation syndicale grâce aux cotisations des adhérents, parce que c'est comme ça que ça marche quand on sort du privé, on n'est pas dans le service public. Donc, et j'ai ensuite été secrétaire général de cette union départementale et membre de la commission exécutive de la Confédération. CGTFO.
C'est une vie de militant que tu nous racontes.
Oui, et on m'a demandé de dire qui je suis, donc je me présente et ça me rajeunit.
C'est très bien. Non, mais c'est entre guillemets, c'est formidable parce que on est plus ou moins nous aussi des militants, pas à ton niveau, mais on a été des militants dans les entreprises puisque nous sommes des retraités. Mais sur cette, tu parles de l'Espagne avec ton cœur.
Oui.
Et c'est vrai que pour avoir lu quelques livres. Le PUM, c'est le Parti Ouvrier Unifié Marxiste.
C'est
le Parti
marxiste.
Ouvrier d'Unification Marxiste.
Voilà, voilà. Parce que j'avais
qui a été constitué dans les années 29, 30, 31, je crois, voilà, oui, par des militants, des camarades marxistes, communistes, mais en opposition
à Staline,
au stalinisme.
C'est vrai. Et c'est vrai aussi que, juste comme ça, tu dis que les républicains espagnols ont été trahis. Et il y a une très belle chanson de Serge Durio qui dit « Un nuage espagnol » où il explique dans cette chanson que la garde du corps de Gaulle, ce sont des républicains espagnols habillés puisqu'ils sont venus avec l'armée américaine.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose... Je l'avais appris lorsqu'on était allé à Toulouse à l'anniversaire de la République.
Oui.
Mais je veux dire, par là, c'est vrai que les républicains espagnols, ils ont été doublement trahis par la France, par les Anglais.
Oui.
Par les Russes,
oui.
Par les Américains.
Oui.
C'est-à-dire, c'était ça. C'était, il n'était pas question de permettre à cette Espagne de devenir républicaine parce qu'ils avaient la trouille que ça donne des idées à d'autres. C'est
exactement.
Pour ça qu'ils ont été trahis, violemment trahis.
Violemment trahis, c'est exact, oui. La Nueve,
oui.
Les combattants espagnols de la Nueve, qui étaient une compagnie de la division Leclerc, ce sont eux qui sont rentrés les premiers dans Paris sur leur char d'assaut, etc. Mmh. Et on a cette réflexion, je crois, du général de Gaulle, qui, lorsque le commandant ou le capitaine Drone, qui commandait cette compagnie, qui rentrait la première avec ses blindés à Paris, a dit à de Gaulle, non, sur un des tanks, il y avait Morocon. Et de Gaulle a dit, vaste programme. Je crois qu'il avait raison, parce que les camarades, les cons nous cernent. Il y en a beaucoup. Je veux préciser également que mon activité de militant, je vais le dire quand même, quelques amis le savent, je l'adore aussi beaucoup à la compañera Virginia Salamero, c'est-à-dire ma compagne, qui aujourd'hui était handicapée, parce que c'est vrai que la vie d'un militant, s'il n'avait pas été convaincu avec nous, parce qu'elle est arrivée en France, elle avait 16 ans. Donc de 5 ans à 16 ans, elle a connu, elle avait 5 ans en 39 quand ils sont rentrés à Barcelone. Elle a su ce que c'était, Elle a toujours participé avec nous. Elle était membre des Jeunesses Libertaires Espagnoles en exil à Bordeaux. Elle a été aussi membre du groupe artistique Cultura Popular, qui avait pour gagner des sous pour l'Espagne à Oprimida, comme on disait. Et que c'est grâce à elle aussi que... Compagnera Virginia Salud, elle était aujourd'hui très handicapée, mais je tenais quand même à le dire parce que, voilà.
Une vie de militant, c'est une vie de couple. On va faire une petite pause musicale et on va reprendre juste après.
Tout avait commencé au milieu de l'été, des cerveaux de guerriers déchirait les matins. Séville et Guernica finissaient de saigner. L'Europe des Lumières suivait le lendemain. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit des catacombes. Un peu de terre dans les mains, une espérance. Ce vagabonde avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien qu'endormaient toutes les colombes. Je t'écris mon amour, du fond de la torpeur, entre l'Espagne en deuil et l'Allemagne en guerre. Avec les compagnons, nous traversons l'horreur et filons vers le nord pour éteindre l'enfer. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit des catacombes, un peu de tête dans les mains, une espérance vagabonde. Avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien, endormait toutes les colombes. Ils avaient bataillé dans les déserts brûlants, malgré l'humanité serrée au fond du cœur. D'Afrique en Angleterre et sur le continent, pour rendre le soleil aux humains et aux fleurs. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit les catacombes, un peu de terre dans les mains, une espérance vagabonde. Avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien, endormait toutes les colombes. Des Français par milliers, des côtes à l'île de France, ont croisé du regard ces étranges amis. Il faudra bien un jour crier dans le silence qu'un nuage espagnol a libéré Paris. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit les catacombes, un peu de terre dans les mains, une espérance vagabonde. Avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien, qu'endormaient toutes les colombes. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit de catacombes, un drapeau noir, un peu carmin, une espérance vagabonde. Avec un chant républicain,
eh bien, chers amis auditeurs des Bulles dans le Bocal, on reprend notre interview avant la conférence de Joachim Salamero. Donc, Joachim s'est présenté, militant ouvrier, militant dans la libre pensée, surtout fils de républicain espagnol, qui va passer sa vie aussi à avoir des liens avec l'Espagne républicaine. Et aujourd'hui, on va aborder quelque chose de très important dans cette guerre d'Espagne, dans cette république qui va être abolie, c'est la violence de l'Église. Et c'est d'autant plus intéressant parce que l'Église aujourd'hui, même si elle se vide, même si elle a de moins en moins de pratiquants, elle est toujours présente. Joachim, quand tu veux nous parler de cette violence de l'Église catholique romaine apostolique espagnole.
Oui, lorsque mes camarades de la libre pensée du Gers m'ont proposé de venir à l'occasion du 85e anniversaire de la proclamation de la deuxième république espagnole, je leur ai proposé de parler d'une ce thème dont on parle beaucoup moins souvent, même quand on honore la République. Hier soir, par exemple, à Bordeaux, j'ai participé pendant quelques instants, parce qu'avec le temps qu'il faisait, ça n'a pas duré longtemps, c'est en plein air, organisé par le mémorial des républicains espagnols à Bordeaux, à la mémoire des républicains espagnols à Bordeaux, qui sont morts surtout quand ils étaient obligés de construire la base sous-marine de Bordeaux pendant l'occupation, sous les ordres des Allemands et du gouvernement de Vichy. C'est une œuvre extraordinaire du point de vue de l'imposant monument que c'est, la base sous-marine où il y avait les sous-marins allemands qui venaient. Il y a beaucoup de, on ne sait pas combien, mais des dizaines et des dizaines de camarades qui sont dans le béton, des Espagnols, d'autres nationalités aussi, des prisonniers politiques, etc., etc. Et il s'est constitué, à l'initiative des organisations mémorielles de Bordeaux, une association pour ériger ce monument qui a maintenant 5 ou 6 ans d'existence et tous les ans, au 14 avril, on fait quelque chose là-devant. Et hier soir, je me suis senti mal à l'aise à un moment donné, parce que est intervenu aussi pour saluer une députée de la Gironde et 3 conseillers municipaux de 4 communes de l'agglomération autour de Bordeaux qui représentaient leur mairie. Et comme je les connais, je sais qu'ils n'ont pas du tout abordé, et je l'ai vérifié encore hier soir, le thème que je vais aborder ce soir. C'est-à-dire pas un mot, des mots aussi, des phrases convenues, solidarité avec vous, etc., etc. Ou pardon, sans parler de la trahison dont on a parlé tout à l'heure, des républicains et des antifascistes espagnols par toutes les démocraties à la fin de la guerre, etc., de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas un mot non plus sur le rôle de l'Église catholique. L'Église catholique apostolique et romaine espagnole a été d'une violence extrême, mais pas seulement pendant la guerre d'Espagne 36-39. Sa violence a commencé bien avant. Je ne vais pas tout dire maintenant, je vais citer simplement 2 ou 3 exemples. C'est une Église qui a fait condamner à mort en 1909 le fondateur des écoles modernes et rationalistes, dont laïques d'Espagne, contre les écoles de l'enseignement dit libre, c'est-à-dire ceux de l'Église catholique. Je vais vous lire quelques lignes qui ont été écrites à ce moment-là dans le journal El Corazón de Jesús, Sacré-Cœur de Jésus. Je cite « Qu'est-ce que l'école moderne ? C'est un système d'éducation sans Dieu, d'enseignement et d'instruction basé sur des principes libre-penseurs, comprenant des écoles laïques, des revues indécentes, des livres dégoûtants, des réunions blasphématoires, des spectacles irreligieux, des discussions impies, ces crimes, l'attentat qui a été, il y a eu un attentat qui avait été exécuté, continueront à se produire, écoutez bien, tant que les Espagnols soutiendront la liberté de lire, d'enseigner, de penser, d'où naissent tous ces monstres antisociaux. » Ça, c'est la position officielle de l'Église catholique en Espagne au moment des procès qui ont condamné à mort Francisco Ferrer. Et encore 4 ou 5 lignes. Avant que son procès commence, et avant qu'il soit arrêté à Barcelone, en 1909, Francisco Ferrer a eu droit à cette déclaration du chef de la hiérarchie catholique en Catalogne, Monseigneur Casanes, en ces termes. « Le principal responsable de ces choses, vous le connaissez. Il est bien en évidence. Il agit au vu et au su de tout le monde. Pourtant, les autorités se taisent. La police ne bouge pas. La municipalité non plus. Aucune autorité gouvernementale n'a encore prononcé son nom. La parole de Dieu dans ma bouche, s'il y en aura donc, sans avoir à prononcer son nom, en ce lieu saint, celui qui est le coupable de la puissance accrue du laïcisme et du rationalisme, le véritable déclencheur du fléau qui ravage notre Sainte Église et qui met à feu et à sang l'Espagne. » Ça, c'est l'Église catholique en Espagne, qui n'a pas attendu d'être donc aux premières loges en 1931, quand la République a été proclamée pour la combattre, et en 1936 pour soutenir Franco. Un ami, ancien conférencier national libre-pensée, un ami décédé il y a quelques années, Aristide Lapeyre, dans une brochure en 1949 sur le problème espagnol, a eu cette expression « La Révolution française sonna le glas du vieux monde, des vieux régimes. Le monde entier en fut ébranlé, sauf en Espagne, où les prêtres faisaient bonne garde. » Et à ce propos, pour bien connaître la position de l'Église catholique, apostolique et romaine d'Espagne, en accord avec le Vatican, et je le démontrerai ce soir dans la conférence par quelques citations très précises encore, je conseille la lecture de plusieurs ouvrages, au moins 2, sur l'histoire de l'Église catholique espagnole et du Vatican par rapport au fascisme, y compris par rapport au national-socialisme en Italie, en Allemagne. Le livre d'une historienne, Madame Lacroix-Riss, Annie Lacroix-Riss, et de notre regretté camarade, militant éminent aussi de l'Union rationaliste en France, Henri Fabre, un des fondateurs du planning familial, entre autres en France, qui s'appelait « Le Vatican et la Seconde Guerre mondiale ». Je pense qu'il faut lire ces ouvrages pour bien connaître ce qui s'est passé, et je regrette au passage que des périodes importantes de l'histoire ne soient plus enseignées comme ça devrait être le cas dans les écoles laïques en France. Il faudrait quand même peut-être réviser un certain nombre de programmes d'histoire pour que ce soit la commune ou l'histoire du mouvement ouvrier, pourquoi pas, soit inscrite dans les programmes d'histoire, la véritable histoire de la Révolution française, etc., etc. Voilà ce que je peux dire. D'abord, cette violence de l'Église catholique continue à se manifester en Espagne. C'est ainsi que, lorsque la République espagnole s'installe le 14 avril 1931, le cardinal Segura, archevêque de Tolède et primat d'Espagne, déclare, dès le mois de mai, c'est-à-dire quelques semaines après la proclamation de la République, « Si nous restons calmes et oisifs, si nous nous laissons aller à l'apathie et à la timidité, si nous permettons que la voie soit ouverte à ceux qui tentent de détruire la religion, ou si nous comptons sur la bienveillance de nos ennemis pour assurer le triomphe de nos idéaux, nous n'aurons pas le droit de nous lamenter quand la mer réalisée nous montrera que nous avions la victoire en main, mais que nous n'avons pas su combattre comme d'intrépides soldats prêts à succomber glorieusement. » Je pourrais continuer longtemps pour continuer ces citations, mais je ne vais pas faire la conférence devant vous maintenant. On parle de quelques éléments. J'aurais quand même rappelé que lorsque l'insurrection fasciste a commencé en Espagne, le primat d'Espagne, c'est-à-dire encore Segura, fera cette déclaration à la radio qui en dit long sur leur état d'esprit réel. Et j'insiste, cette violence a été toute l'histoire du bien avant le XXe siècle, mais toute l'histoire du début du XXe siècle en Espagne. L'Église espagnole s'est toujours opposée à tous les progrès. Même les tentatives timides de progrès qui avaient eu lieu, même avant la République, elle s'y est toujours opposée. Mais il a eu cette déclaration, pratiquement dès le premier jour de l'insurrection fasciste, le primat d'Espagne, « Béni soient les canons, si dans les brèches qu'ils ouvrent, fleurit l'Évangile. » Ça en dit long, à mon avis, sur l'état d'esprit réel et l'activité politique, au vrai sens du terme, de l'Église catholique apostolique romaine et de sa violence.
Si tu permets, Joachim, nous, dans ce pays qu'est la France, lors de la fameuse croisade des Albigeois, je crois que c'est Clément Dossard, le pape dit non, le pape c'était Innocent Écal, qui avait dit « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Je veux dire, c'est du même tonneau.
C'est du même tonneau. Ce qui s'est passé en France, c'est que nous, heureusement, toutes tendances réunies, l'Association nationale des libres penseurs avec son président à l'époque, Ferdinand Buisson, avec après Aristide Briand, Jaurès et quelques autres, nous avons réussi à gagner, parce que ça a été une vraie bataille, qui ne s'est pas livrée simplement qu'au Parlement. Mais s'il est vrai, dans les deux ou trois ans qui ont précédé, par de multiples réunions publiques, de multiples manifestations, nous avons réussi quand même, nos ancêtres ont réussi, nos grands-parents, ou arrière-grands-parents pour quelques-uns, ont réussi à imposer, à faire voter au Parlement la grande loi que moi j'appelle à la fois républicaine et révolutionnaire de 1905, le 9 décembre 1905, de séparation des Églises de l'État. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, nos camarades espagnols, que ce soit ceux de l'association Europa Laica, de la Fondation Francisco Ferrer à Barcelone ou de l'Union des Libres Penseurs d'Espagne, nous disent chaque fois qu'on a l'occasion de la rencontrer, vous vous battez aujourd'hui pour la défendre et nous on se bat pour la conquérir.
Bien sûr.
Oui.
Et c'est vrai que, c'est, comme tu dis, cette loi de 1905 a été précédée par celle de 1901 et que les curés n'ont pas pour habitude de dire « Vous avez gagné, on s'en va ». C'est pas dans leur pratique, loin s'en faut. Mais cette église apostolique catholique romaine espagnole dont tu viens de parler, qui est donc dès 1909, montre les, si je peux m'exprimer ainsi, les dents, cette église-là fait venir Franco, elle est forcément intéressée, puisqu'elle est anti-républicaine naissance. Mais je veux dire, son poids, elle amène Franco, et pendant la guerre d'Espagne aussi, je veux dire, ce sont quand même, ça doit être intéressant pour moi de savoir comment elle se comporte, comment elle va trahir le peuple, etc., quoi. Parce que c'est ça, en fait, le rôle de cette église.
Oui,
elle parle d'amour, mais qui parle d'amour avec, non pas des tambours, mais avec des canons.
Oui. Mais elle va continuer, elle va participer à la... Lorsqu'en 1939, en avril, le 1er avril d'ailleurs, et c'est pas un poisson, Franco déclare à la radio, la guerre est finie, bon, ils ont gagné. Ils ont gagné. Et tous les partis politiques, donc sur tout le territoire, bon, sont interdits, les organisations syndicales sont interdites, la franc-maçonnerie est interdite, la libre-pensée est interdite, tout ce qui est libéral et qui parle de libre examen, de rationalisme, etc., est totalement interdit, et pourchassé et poursuivi. Et l'Église espagnole règne en maître dans l'enseignement. Je citerai tout à l'heure, dans la conférence, quelques articles de la loi de 1943 sur l'organisation de l'université espagnole et sur son rôle à jouer, où on explique « L'université espagnole n'est pas faite pour le développement individuel, elle est faite pour apprendre à appliquer l'autorité de l'État. » C'est tout un programme. Et elle invoque, elle se place sous le patronage de saint Thomas d'Aquin, qui inventera, lui, entre autres, non, il faudra remonter plus haut dans l'Antiquité, mais enfin, qui précisera, dans son ouvrage « La somme théologique au Moyen-Âge », ce qu'est le principe de subsidiarité, qui est à la base de la doctrine sociale de l'Église et de toutes les Églises. Et c'est ce système-là qui va être appelé à fonctionner en Espagne. Je rappelle quand même que l'Espagne s'appellera, l'Espagne de Franco, c'est officiellement l'État national syndicaliste. Hitler, c'était le national-socialisme. Mmh. Et je vais même plus loin. Comme une des grandes organisations syndicales de l'Espagne, il y avait l'UGT, et la CNT, la CNT. La CNT, son drapeau, il était noir et rouge, mais en diagonale. Ils pousseront l'audace, les phalangistes, à prendre les mêmes couleurs, noir et rouge, pour le drapeau, leur drapeau, mais à l'horizontale, en barre, noir et rouge, pas en diagonale. De façon à maintenir une espèce de confusion en disant, nous aussi, nous voulons faire une véritable révolution, ni capitalisme, Ni socialisme. Et ça, c'est à la base de la doctrine sociale de l'Église aussi.
Exactement.
Alors, c'est ça. L'Église espagnole a été violente, pas seulement depuis 1909, j'ai cité un exemple, celui de Francisco Ferrer, mais elle a été violente bien avant aussi, elle a défendu les privilèges terriens. Un historien espagnol, nommé Ramón Oliveira, écrira dans un livre qu'il a produit il y a quelques dizaines d'années quand même, à la fin du XIXe siècle, l'Église a eu le choix, au moment où ça commençait à bouger un peu partout en Europe, etc., pour la liberté, il y a eu la philosophie des Lumières, etc., etc. L'Église catholique a eu le choix, ou être une Église pauvre mais populaire, ou être une Église riche mais impopulaire. Elle a choisi l'opulence. C'était clair. Et il avait raison. Elle a été un grand propriétaire terrien. Un grand propriétaire immobilier. Elle avait des associations à elle, contrôlées par elle, qui étaient majoritaires aux mines du Rif, etc., etc., dans les tramways de Barcelone, ou le métro de Madrid, etc., qui étaient majoritaires un peu partout, quoi. Elle contrôlait une bonne partie de l'économie espagnole directement. Elle défendait, par conséquent, la propriété privée, etc., et elle a été un élément qui a nourri, d'ailleurs, l'anticléricalisme populaire. On a reproché dans d'autres mouvements sociaux, dans d'autres grèves, aux masses populaires, et notamment aux partis de gauche, etc., pendant quelques grèves importantes, avant la République de 1931, qu'on s'attaquait aux couvents, etc., etc., aux églises, qu'on mettait le feu aux églises. Il y a des faits qui sont produits, qui sont réels. Mais quand tu es exploité par quelqu'un que tu te révoltes, eh bien tu vas faire peut-être justice toi-même. C'est peut-être pas exactement ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui a été fait. L'anticléricalisme populaire espagnol a été produit par le cléricalisme acharné et violent de l'Église catholique.
Comme les châteaux ont brûlé pendant la Révolution française, de la même manière, pour détruire les archives.
Oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui.
Nous sommes tout à ton écoute. Il nous reste quelques minutes encore. Moi, on revient un petit peu sur cette église, donc qui va la guerre est terminée, Franco a pris le pouvoir. On sait aussi, on en parlait l'autre fois avec Charlie, que l'église va prendre les enfants des filles mères, etc., oui. etc. C'est-à-dire, tout ça contribue. Ça fait partie aussi de cette violence, de ces choses affreuses que fait l'Église, toujours au nom de leur Dieu qui doit s'appeler amour, mais ils ne le savaient pas, et qui fait que c'est affreux, quoi, ce que subit ce peuple. C'est affreux.
Oui, c'est affreux. Les enfants volés, c'est connu de plus en plus maintenant. Ça s'est révélé il y a quelques années. Mais dans les maternités, on expliquait aux femmes de rouge, surtout, celles qui étaient prisonnières, etc., etc., que leur enfant était mort-né. En réalité, ils avaient été placés dans des familles de bonne situation pour qu'ils apprennent à être de vrais Espagnols, défendeurs de la race, de la patrie, etc., etc. Les scandales ont existé. Il y a actuellement des procès en cours en Espagne. Je ne sais pas exactement où ça en est juridiquement, mais ça a été exact, ça a été volé. Vous savez, ils ont tout fait. Moi, dans ma famille, les frères de mon père qui étaient restés en Espagne, il y en a deux qui sont morts du côté républicain et dont l'un a été fusillé dans les premières semaines de 36 en Andalousie. L'autre est décédé sur le front pas loin de Barcelone, il a été tué. Et la femme, l'épouse, ma tante donc, j'ai connu bien des années plus tard, quand on a pu retourner de temps en temps visiter l'Espagne, quand la frontière a été réouverte. Lui est fusillé, et elle, on l'embauche dans l'usine qui fabriquait les vêtements des gardes civils. Non, c'est une forme de sadisme, quoi, qui va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, quoi. On pourrait multiplier les exemples. Dans les familles aussi, il y a eu des problèmes. Le troisième frère de mon père habitait Madrid, et un frère exilé en France, sous dictature de Primo de Rivera. Les deux autres, comme je viens de dire, l'un fusillé par les franquistes, l'autre mort sur le front républicain, pas loin de Barcelone, etc. Il n'a jamais dit à ses enfants, qui sont mes cousins, qu'ils avaient des oncles. Donc un était en France, l'autre fusillé. Et il a fallu que ce soit moi, bien des années après, qui en visite, visiter mes cousins à Madrid, leur explique qu'ils avaient aussi, que nous avions une cousine, une tante, une cousine à Saragosse, etc. Par peur. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sache, dans son quartier où il habitait, à Madrid, que dans sa famille, il y avait eu des gens qui étaient de l'autre côté. Ça a été jusque-là, quoi. Le silence, le silence, le silence. Et quelques-uns d'entre vous, bien entendu, vous savez ça. Les associations mémorielles espagnoles, qu'on appelle mémorielles, à Bordeaux, moi j'en connais quatre, parce qu'il y en a quatre. Il y en a d'autres, puisque la maire 32 va venir tout à l'heure assister à notre conférence, à participer, si j'ai bien compris, à son organisation. Eh bien, ces associations ont mis longtemps à se constituer vraiment, par exemple en France, pour entreprendre un travail de récupération de la mémoire historique. Il a fallu en Espagne au moins une génération, pour ne pas dire deux, pour qu'après la mort de Franco, on commence quand même à reparler un peu de ces choses-là. Mais au moins une génération, au moins une. Après qu'il soit mort en 75, moi il m'est arrivé de participer comme délégué de la Fédération Force Ouvrière de la Métallurgie, au premier congrès de la Fédération UGT de la Métallurgie en Espagne, reconstituée, dont ça devait être Franco Marsuka, ça devait être en 76-77, congrès national. C'était impressionnant ce que racontaient les camarades. Moi j'étais impressionné. Et c'était impressionnant et émouvant.
Sûrement, oui.
Voilà.
Chers amis auditeurs de la des Bulles dans le Bocal, on va faire une nouvelle pause musicale et on reprendra la dernière partie de notre émission juste après cette pause musicale. Merci, à tout à l'heure.
Tu semilla es pura y fuerte, pan de sangre y de dolor. Sentinela alerta, vigila visor por la libertad y un mundo mejor. Sentinela alerta, vigila visor. Sentinela alerta, vigila visor. La muerte no importa, la vida es muy corta. Si esclavo he de ser, prefiero caer.
Eh bien, chers amis des Bulles dans le Bocal, nous reprenons notre émission en compagnie de Joachim Salamero. Nous allons, après les deux premières parties, qui êtes-vous, la violence de l'Église, nous allons aujourd'hui parler de l'Espagne, de maintenant, de cette Espagne qui vit au XXIe siècle. Joachim, on t'écoute.
Oui, ben c'est pas facile l'Espagne de maintenant. Si je m'en tiens uniquement qu'au problème de la laïcité des institutions, telle que nous comprenons la laïcité, et telle que la comprennent nos amis espagnols qui essaient, au milieu des difficultés, de promouvoir et de reconquérir, comme je disais, je crois, tout à l'heure, cette laïcité que nous connaissons encore en France, bien qu'elle soit malmenée, mais ça c'est un autre débat. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a quelques semaines, le 1er, 2 et 3 avril 2016, s'est tenue à Madrid l'Assemblée Générale de l'Association Europa Laica. Je vais en dire quelques mots, mais auparavant, je pense utile d'insister sur quelque chose qui nous amène à l'Espagne d'aujourd'hui, c'est-à-dire après ce qu'on a appelé la transition démocratique. Parce que c'est vrai que, malgré sa violence, sa participation à ce qu'a été la cruzada, leur croisade, etc., les crimes qu'elle a commis ou qu'elle a aidé à commettre, elle est encore une force présente, y compris dans une partie de la population. Il ne faut pas qu'on se nie les choses. Moi, j'ai assisté à un spectacle assez surprenant. En 2002, en avril 2002, se tient à Madrid le congrès d'une grande centrale syndicale ouvrière espagnole. Il y a en Espagne aujourd'hui deux grandes, il y a d'autres petites, syndicats indépendants des fonctionnaires, etc. Il y a deux grandes organisations syndicales, l'UGT, l'Union Générale des Travailleurs, et la Confédération des Commissiones Obreras. Alors, pour les qualifier très rapidement, l'UGT de tendance socialiste, avec le PSOE, et les commissions ouvrières d'Espagne, je dirais, pour faire vite, c'est la CGT d'ici, quoi, en gros, grosso modo. Donc il se trouve que j'ai pu assister à ce congrès en 2002, donc en 2000, en avril 2000. Je vais en dire quelques mots avant d'arriver à la... parce que ça explique quand même les difficultés et l'imprégnation de l'Église catholique dans la société. À cette époque, je suis membre de la commission exécutive de la CGT Force Ouvrière en Gironde au niveau confédéral, et le congrès des commissions ouvrières avait invité à leur congrès toutes les centrales syndicales européennes, sans exception, de quelque tendance que ce soit, membres de la Confédération européenne des syndicats. Donc la confédération à laquelle j'appartiens, sachant que je connais quand même un peu l'histoire de l'Espagne, que je parle à peu près bien à l'espagnol, il m'envoie comme délégué là-bas. Et je suis à la tribune des délégations étrangères. Alors ils n'avaient pas invité que les délégations européennes. Je me trouve sur la même travée que la délégation des syndicats chinois. Je me suis dit qu'au niveau de l'indépendance syndicale, ça me posait quand même quelques questions. Bon, passons, c'est un autre débat. À la tribune du Congrès, il y a le bureau... Pardon, il ne faut pas que je remue beaucoup. Il y a le bureau confédéral. Il y a deux ministres du Travail, celui qui était en fonction au moment et l'autre qui précédait. C'est-à-dire qu'il y avait un ministre Psoé et puis l'autre ministre, que je vais dire, Pépé. Il y a le représentant du patronat, c'est-à-dire leur MEDEF à eux. Il y a le représentant de Caritas Espagnole et le représentant de la Conférence Épiscopale d'Espagne. C'est surprenant.
C'était pour sous un contrôle. C'était sous contrôle.
Oui, oui, c'était sous contrôle, comme tu dis, tu as tout à fait raison. Mais enfin, c'est quand même surprenant pour quelqu'un qui, comme moi, défend l'indépendance des syndicats par rapport aux partis politiques, à l'État, etc., etc. Mais ça donne une idée quand même de ce qu'ils représentaient en Espagne et ce qu'ils représentent encore un peu. Alors ils ont perdu d'autres batailles, par exemple celle sur le droit à l'avortement, sous certaines conditions, mais enfin ça a été à peu près gagné. Ils ont essayé de revenir là-dessus il y a 2 ans environ, mais par prudence ils ont reculé parce que c'était pas la peine, disaient-ils, en catimini bien sûr, de s'embêter avec ça, etc. pour l'instant, mais ça peut revenir de n'importe quel moment. Je dis ça parce que ça montre comment l'Église catholique, et surtout après Vatican II, ce qui à mon avis n'a rien changé sur le fond, sauf sur la méthode, ils ont changé sur leur méthode d'intervention dans la société, ce qu'elle était capable de réaliser comme pénétration dans les organismes civils, organisations syndicales, politiques, etc. Ça nous entraînerait à un autre débat très long. Sur la façon dont ils ont influé, pénétré, pour ne pas dire colonisé pour quelques-uns, des mouvements qui traditionnellement se situaient à ce qu'on appelle la gauche démocratique et qui défendaient en principe la laïcité institutionnelle de l'État. En Espagne, il y a actuellement deux ou trois organisations, je vais en citer trois, qui défendent les mêmes principes que nous, à la libre pensée, nous défendons en France sur la laïcité institutionnelle de l'État. La plus importante, c'est l'Association Europa Laica. Il y a aussi l'Union des libres penseurs d'Espagne, qui toutes les deux appartiennent à l'Association internationale de la libre pensée. Europa Laica compte une bonne cinquantaine de sections locales dans des grandes villes, Barcelone, Madrid, Séville, Saragosse, etc., etc. J'ai une liste à peu près complète dans le dossier. Et donc ils ont tenu leur assemblée générale au début de ce mois d'avril 2016. En lisant un des documents qu'ils ont produit, on s'aperçoit que malgré la constitution, la nouvelle constitution de 1978 qui affirme dans un article, dans l'article 16, que aucune confession n'aura de caractère national, étatalisé, étatique, comme ils disent, il n'empêche que les relations de coopération avec l'Église catholique et les autres confessions continuent à être présentes, d'actualité, en permanence. Il nous explique, ses camarades, il nous rappelle que continue à sévir le Concordat franquiste de 1953, rénové dans les accords de 1976 et 1979, c'est-à-dire après la transition avec le Saint-Siège, qu'il y a une loi dite de liberté religieuse de 1980, c'est-à-dire qu'on reconnaît la liberté de religion, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que reconnaître la liberté de conscience, qui est d'abord la première des libertés, chacun choisissant ce qu'il veut après. En faisant tous ces constats, je dois dire que nos amis d'Europa Laïca, avec souvent l'Union des libres penseurs d'Espagne, entretiennent de plus en plus font de plus en plus d'interventions auprès des députés de toute tendance. Ils interviennent régulièrement auprès des autorités régionales, aussi bien la Généralité de Catalogne, etc., que le gouvernement d'Andalousie, que le gouvernement régional d'Aragon. Ils interviennent pour faire dans les campagnes électorales pour demander à chaque candidat ce qu'il pense de ça et ce qu'il propose eux. C'est ce qu'il propose avec nos amis libres penseurs qui sont sur la même orientation, c'est que les pouvoirs publics doivent protéger bien sûr le droit à la liberté de conscience et d'expression de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, sans aucune distinction bien sûr, que les pouvoirs publics et les institutions d'État sont obligés à la neutralité dans leurs fonctions, dans leurs compétences, et qu'ils doivent se tenir à l'écart officiellement de toutes les croyances religieuses, quelles qu'elles soient, etc., etc. Ils demandent l'arrêt des financiations de l'enseignement privé catholique. Ils demandent l'abolition de l'impôt d'église qui existe encore en Espagne. Vous avez le droit de dire non dans les questions qu'on pose quand vous déclarez votre revenu. Non, je ne veux pas payer cet impôt. C'est une forme quand même de signalisation de ce que vous êtes, qu'on le veuille ou non, etc., etc. Qu'aucune... Alors que dans l'école, donc, on fasse priorité, plus d'enseignement de cours religieux dans les écoles publiques. Donc toutes les revendications qui donnent naissance à une véritable loi de séparation et des États. Et ils disent à un moment donné, ils se réfèrent d'ailleurs à un moment donné, je ne trouve plus la phrase exacte, mais c'est à peu près ça, que toutes ces lois doivent être organisées pour que puisse enfin une véritable société démocratique et républicaine. Parce qu'un des enseignements aussi de la transition, c'est que la République, après la mort de Franco, n'a pas été réinstituée, bien entendu, on est passé à la monarchie constitutionnelle, et que par conséquent, ce que souhaite l'Église catholique, bien sûr, ce qui veut dire que, malgré les efforts de nos amis espagnols, de Europa Laïca, de la libre pensée, et aussi, en ce qui concerne la Catalogne, de la Fondation Francisco Ferrer, il y a eu quelques progrès quand même. Il faut quand même signaler que, il y a quelques années, nous sommes en 2016, donc ça va être autour de 2010, il y a enfin une grande avenue, baptisée, excusez-moi, qui s'est appelée désormais, par la Généralité catalane, l'avenue Francisco Ferrer. Bon, il y a quelques trucs comme ça qui peuvent dire que les campagnes menées par nos camarades peuvent aboutir à quelques résultats. Mais l'essentiel, c'est la bataille que mènent nos Espagnols, et je vais finir là-dessus, pour obtenir, en se disant que ce n'est pas forcément la monarchie constitutionnelle qui va obtenir ça, donc il faut un véritable changement de régime vers une véritable démocratie, mais leur bataille essentielle c'est laïcité, 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 dans le même sens que nous l'entendons. Une dernière indication, l'Association internationale à la libre pensée, qui s'est reconstitué à Oslo en 2011, tous les trois ans organise un congrès mondial. Mais entre les trois ans, dans la période des trois ans entre deux congrès mondiaux, on organise ce qu'on appelle des congrès régionaux à l'échelle d'un continent. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un congrès en Amérique du Sud, avec des camarades de différents pays d'Amérique du Sud. Ça se développe pas mal. Il y a en perspective pour les années à venir quelque chose au Moyen-Orient, avec quelques contacts que nous avons, etc. Et le prochain congrès régional aura lieu, c'est pour tous les pays européens, aura lieu cette année, en décembre 2016, à Madrid. Avec la collaboration de nos amis laïcs espagnols, ça va leur donner
du poids.
Du poids. On va essayer de leur donner du poids parce qu'on va faire beaucoup de battages autour de cette initiative. Et j'en profite pour vous dire, chers amis auditeurs, que le prochain congrès mondial alors de l'Association internationale des libres penseurs aura lieu à Paris dans le deuxième semestre de 2017.
Bon. Des rendez-vous intéressants.
Voilà, des rendez-vous et des activités en perspective.
Ce sont de bonnes nouvelles. Oui. Peut-être tu pourras développer ça dans la conférence, la part de l'Église catholique dans l'enseignement, secondaire, primaire, secondaire, et dans l'université. Je pense que c'est intéressant
ça sera
de le savoir,
dans la conférence.
Puisque apparemment l'Église a encore une base matérielle qui lui permet un certain nombre de choses et l'État l'aide en plus.
Bon, tout à fait.
Voilà, donc c'est un élément simplement que tu
tout
pourras
ce sera développé dans quelques instants dans la conférence publique.
On te remercie de ces éclaircissements militants sur la situation.
C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion, au nom de tous mes anciens camarades aujourd'hui disparus, et dans l'espoir qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent nous relever, de m'avoir permis de rappeler un certain nombre de choses qui nous tiennent à tous à cœur. Viva la República!
Vive la République.
Eh bien, nous, on a l'habitude de terminer ces émissions, mais tu vas participer, Charlie. On a l'habitude de terminer ces émissions, Joachim, par quelque chose que l'on aime bien et que l'on connaît de par cœur à la libre pensée, n'est-ce pas, chers amis? C'est on y va ensemble. 1, 2, 3. Avant, c'est ni Dieu,
ni maître.
Avant la calotte, et vive
la sociale.
Eh bien, chers amis auditeurs des Bulles dans le Bocal, voilà une émission avant cette conférence qui va être aussi enregistrée. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté,
merci
Joachim.
Je viens de réviser mon truc de tout à l'heure.
Voilà, chers amis auditeurs,
c'est un bon échauffement.